Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue dans votre émission de Radio Okapi intitulée Regard sur l'actualité de la semaine. Ravi de vous retrouver encore ce matin. Nous rappelons que chaque samedi, à partir des 7h25, heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour justement passer en revue l'actualité de la semaine, nous recevons Blaise Zainda, il est journaliste indépendant et manager des médias. Bonjour Blaise Zainda.
Bonjour Guy et bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Maître Gentille Soukoulassi, elle est présidente du conseil d'administration de la nouvelle société civile congolaise. Bonjour Maître Gentille Soukoulassi.
Salut Monsieur le journaliste Guy Monsieur, salut à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Et en ligne depuis Yaoundé, capitale du Cameroun, Josué Blaise Mbangaka, qui est journaliste spécialiste des questions d'histoire et de géostratégie. Bonjour Josué Blaise Mbangaka.
Oui, bonjour et surtout bonne année à la première émission de l'été climatique. Bonne année à toute l'équipe, aux panélistes, ainsi qu'à tous les auditeurs de la prestigieuse radio qui émet depuis que nous sommes la belle.
Merci à tout de suite pour la rétrospective de 7 jours d'actualité. Mesdames et messieurs, vous écoutez Regard sur l'actualité de la semaine, l'émission qui passe en revue l'actualité qui a compté au cours des 7 derniers jours de la semaine.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi, ou encore la chronique coronavirus et le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42-502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42-502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Nous sommes d'un regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que cette émission connaît la participation de Blaise Zainda, journaliste indépendant. Il est manager des médias. Maître Gentille Soukoulati, elle est présidente du conseil d'administration de la nouvelle société civile congolaise. Et en ligne depuis Yaoundé, capitale du Cameroun, Josué Blaise Mbangaka, qui est le journaliste spécialiste des questions d'histoire et de géostratégie. Au menu de cette émission, Vital Kamerhe, Tony Kankouchikou, Julien Paloukou et Jean-Lucien Boussa ont annoncé la création au sein de l'Union Sacrée d'une nouvelle plateforme politique dénommée Pacte pour un Congo retrouvé PCR en sigle. Félix Tshisekedi estime que l'opposition politique aura sa place dans sa gouvernance et enfin focus sur les états généraux des forêts qui se sont clôturés mardi 23 janvier ici à Kinshasa. Mais nous allons commencer par émettre un commentaire sur le combat qui oppose les FRDC et les miliciens locaux aux rebelles du M23 depuis le début de la semaine à Mouesso au nord Kivu. En effet, 19 personnes sont mortes et 27 autres blessées parmi les civils. C'est le bilan encore provisoire des dégâts causés par des bombes tombées jeudi dernier dans les après-midi sur les habitations de la population à Mouesso, territoire des Massissi au nord Kivu. Ce bilan est avancé par les FRDC dans un communiqué rendu public ce même jeudi soir à partir de Goma. Les FRDC déclarent condamner ces morts et ces blessés innocents causés ce jeudi à Mouesso par les M23. Les porte-parole de l'armée au nord Kivu parlent également de plusieurs attaques enregistrées sur leur position dans les Massissi le jeudi 24 janvier. Selon des sources sur place, ces victimes, dont plusieurs enfants, avaient trouvé refuge dans une maison à matériaux durables pour se mettre à l'abri de ces accrochages. Certains habitants des Mouesso ont trouvé refuge à l'hôpital général où ils ne bénéficient d'aucune assistance. Cette situation ne permet pas aux humanitaires de rester dans la région pour assister la population, excepté l'ONG Médecins Sans Frontières qui continue à appuyer l'hôpital général des Mouesso. Blaise Zainda, tout a été presque dit au sujet de cette guerre du M23 qui s'enlise. Qu'est-ce que vous pouvez encore dire aujourd'hui quand vous apprenez la reprise des combats pour le contrôle des Mouesso?
D'abord, je voudrais exprimer toute ma compassion à mes compatriotes qui se trouvent dans ces zones occupées et qui subissent des affres C'est vraiment très malheureux de vivre un début d'année sous une coupe aussi amère que celle-là. Mais je crois que le vrai problème demeure celui de retrouver la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Et cela devrait impliquer tous les acteurs et toutes les parties prenantes. Il ne revient pas à être actif sur les réseaux sociaux, à vivre la publication, la vulgarisation des photos, des destructions de ceci par les drones, ainsi de suite, quand au lendemain on doit encore pleurer et voir nos frères dont les images horribles ont été diffusées hier. Et moi, en tout cas, ça me fait beaucoup de peine, parce que c'est vraiment une partie du pays qui est en train de souffrir et le corps entier ne peut disposer d'aucune sérénité. Je pense qu'il est important que tous les acteurs de la région, je bien dis tous les acteurs, continuent à se mettre autour d'une table, continuent à parler pour trouver des solutions durables à cette situation. On ne va pas commencer à parler, évoquer tout le jour une montée en force pendant que sur le terrain c'est autre chose. On ne va pas continuer tout le jour à évoquer ceci pendant que, voilà, il n'y a aucun cessez-le-feu, le cessez-le-feu que voulais-je dire qui est respecté. Il faut impérativement à ce que nous parvenions à disposer d'une situation de paix, et ce sur l'ensemble du territoire national. Pour ce qui concerne cette zone-là, il est important qu'on se mette autour d'une table et qu'on discute sérieusement pour que la paix règne et que nos populations puissent voir leurs enfants aller à l'école, normalement les femmes au champ et au marché, ainsi de suite. Voilà, c'est ça ma préoccupation.
Merci, Maître Gentil Soukoulati. Ces conflits qui s'enlisent continuent de faire beaucoup de victimes, nous l'avons dit ici, hein, beaucoup de victimes parmi les civils. Et pour la seule journée de jeudi, il y a eu plus de 19 morts et plus de 10 blessés. Vous, en tant que praticienne des droits, qu'est-ce qui peut être fait pour renforcer la sécurité des populations civiles?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. En parlant de cette situation, de cette zone, j'ai des larmes aux yeux parce que c'est encore là le sang de Congolais qui a coulé et continue à couler. Mais je suis en train, en tant qu'actrice, avant d'arriver à répondre à votre question, je me dis, est-ce qu'il n'y a-t-il pas moyen qu'une solution soit trouvée une fois pour toutes, parce qu'on aura compté encore plus de morts sur ceux qui sont déjà partis. On ajoutera encore même la mort d'un seul Congolais, c'est la mort de plus. Et c'est une situation qui nous dérange au plus haut niveau. Nous ne pouvons pas, vivant à Kinshasa ou partout ailleurs, continuer à subir ce que les Congolais sont en train de subir à la partie est de la République démocratique du Congo. Ça voudrait dire que ça nous choque, ça nous dérange. Et nous disons que nous demandons non seulement aux autorités, à toutes les autorités, que ce soit administratives, les autorités civiles, toutes les autorités du pays, de pouvoir s'impliquer pour que la partie est de la République démocratique du Congo retrouve sa paix. Nous avons besoin de la sécurité de cette partie de la République démocratique du Congo. En tant qu'actrice, mais moi je voudrais assez que les responsabilités soient établies pour que les auteurs de tout ce qui se passe puissent être sanctionnés et sévèrement. On ne peut pas comprendre 10 morts, ça fait déjà des morts de plus. Nous allons pleurer jusqu'à quand? Il faudrait que les responsabilités soient établies afin que les sanctions sévères soient aux auteurs qui continuent à créer ce genre d'histoire à l'est de la République démocratique du Congo. Parce que ça n'est de trop, ça n'est de trop et de trop. Nous sommes tous des Congolais. Aucun Congolais n'est appelé à vivre cette situation.
Merci, Josué Blaise Mangakak. On sent la tension monter dans la région avec cette crise entre les Burundis et les Rwandais. Une crise qui vient s'ajouter, n'est-ce pas, à celle à laquelle on assiste depuis plusieurs années entre la RDC et les Rwandais. À votre avis, face à cette situation qui pourrait, n'est-ce pas, exploser à tout moment, quel pourrait être l'apport des instances régionales et internationales pour tenter d'apaiser la tension dans cette sous-région des Grands Lacs?
De toute façon, on peut être avec l'habitude de dire que tous les conflits se terminent toujours par le dialogue et le débat entre les belligérants. Moi, j'ai toujours dit, de peur de me répéter toujours sur ces mêmes antennes, que quel que soit le temps que la guerre a eu à prendre, à un moment donné, il faut savoir faire le cessez-le-feu et débattre. Quel que soit le temps qui passe. Il n'y a pas de petits ennemis, il n'y a pas de grands ennemis. Du moment où les morts tombent au quotidien, ça fait combien d'années déjà que la guerre a commencé là-bas, et tous les jours, les gens tombent comme les mouches. Donc, à un moment donné, bientôt, c'est toute la région qui va s'embraser dans la région des Grands Lacs. Donc, il faut déjà trouver, non seulement, comme tu le disais tantôt dans ton chapeau, pouvoir trouver des instances à la fois sous-régionales et continentales et aller faire impliquer davantage dans ces conflits qui ne fait que faire des ravages. Mais il faut aussi que les médias nationaux, les acteurs des différents pays dont on dit qui soutiennent le M23 et les Congolais eux-mêmes de la RDC, que les opinions cessent d'être chauffées. Parce que quand tu suis de près ce qui se passe au Congo démocratique et même de l'autre côté, on a l'impression qu'on a réussi à diaboliser les acteurs et plus les lignes des rapprochements s'éloignent. Alors, il est temps qu'on puisse s'asseoir. Et toutes les guerres, que ce soit au Proche-Orient, que ce soit partout, à un moment, chacun aura le temps de vite balayer, que ce soit dans les pays africains ou ailleurs, chacun gagne un temps, et le maximum de morts qu'il peut avoir sur le carreau, à un moment, il faut que quelqu'un d'assez respecté par les différents belligérants pour faire le cessez-le-feu. Donc, il n'y a pas autre chose que de s'asseoir autour d'une table dans une des capitales qui paraît neutre pour les différents acteurs et poser clairement la question et désarmer maintenant. Qui va être le premier à désarmer? Au nom de quoi on va désarmer? Quelles sont les solutions qu'on propose par rapport à ça? Et les Africains, cette fois-ci, c'est une guerre, on n'a pas l'impression, et il n'y a rien qui trace, que les multinationales et les puissances étrangères sont hors du continent sont impliquées. Donc ça veut dire qu'on peut réussir facilement entre Africains, se regarder dans les yeux et dire exactement, on arrête, on est allé trop loin.
Merci Blaise Zaïnda, vous avez suivi Josué Blaise Malankak qui lui prône, n'est-ce pas, un dialogue que l'on puisse retrouver autour d'une table pour essayer de trouver une solution pacifique. Mais vu la tension actuellement dans la région, une désescalade est encore possible aujourd'hui, Blaise Zaïnda?
J'ai beaucoup apprécié l'intervention de mon homonyme Blaise qui est revenu pratiquement sur le nœud du problème. Une désescalade, je ne crois pas que cela arriverait sans qu'il y ait une tierce intervention. Parce que déjà au niveau de l'opinion, au niveau des médias, il y a une diabolisation qui ne dit pas son nom. C'est vrai aussi qu'on voudrait, nous, République démocratique du Congo, disposer d'un respect qui doit être de mise et que, bon voilà, que nous récupérions toutes les terres qui ne sont plus sous notre contrôle. Et ça, c'est de droit. C'est vraiment une volonté régalienne qui doit être appliquée. Mais aussi comment cela peut se faire, comment cela peut s'opérer. C'est ça aussi la grande question. Comment passer à cette opérationnalisation-là? Est-ce que cela va passer par une victoire comme en 2013 sur le M23 avec l'appui de la MONUSCO, avec l'appui de la SADC, avec l'appui de ces fameux groupes armés qui nous soutiennent, ainsi de suite? Et moi je pense que le vrai problème, il doit être réglé en se disant certaines vérités, en se regardant droit dans les yeux, et puis en disposant d'éléments qui vont permettre à ce qu'il y ait une paix durable. On ne va pas continuer à se cacher derrière des visages de diabolisation, derrière des visages de victimisation, ainsi de suite. Tant qu'on ne se dit pas la vérité en face, tant qu'on ne règle pas les vrais problèmes en face, nous continuerons à vivre ces cycles de violence et ces cycles d'atrocité, car je rappelle qu'aujourd'hui, encore en ce moment, où nous sommes en train de passer cette émission, il y a encore des bombes qui tombent sur Mouesso. Il y a des batailles qui interviennent, il y a des affrontements qui interviennent. Il faut qu'à un moment donné, cela puisse cesser.
Merci. Merci. On prend une petite pause avec l'art de la paix, des Lexus légal, et on revient juste après.
Alors que le monde spectateur assiste au réveil de l'Asie, l'Afrique accentue son processus d'euthanasie. Aucune raison, noble soit-elle, ne justifie la prise d'armes par ses fils qui tour à tour sont traités. Frère ami, frère ami, frère ami. je ne suis pas ton amer ennemi. Il n'y a que toi et moi unis sur cette partie du monde. Le temps de la paix n'est pas qu'une chanson, mais un constat que la guerre au Congo n'a pas d'issue et n'est pas une solution. Un pari osé, j'imagine. Un lourd tribut payé pour se défaire du colon. Un paradoxe de voir l'effort fourni par l'Africain pour se récoloniser. En effet, chaque conscience, crise qui s'enlit, balle qui crépite, fait appel au monde à notre chevet. Blessé des guerres que nous sommes, on nous en pousse même sans anesthésie. Une solution parmi tant d'autres, on s'en contente. Mais quand viendra l'heure de construire si on passe notre temps à recoudre nos bêtises? Autant le ciel tient ses astres, le peuple tient la paix plus que ses soldats son arme. Plus qu'aucun roi, président, dirigeant ne règne sur des cadavres. Il est temps d'essuyer les larmes de ce peuple meurtri sans état d'âme. Le temps de la paix n'est pas qu'une chanson, mais un constat que la guerre au Congo n'a pas d'issue et n'est pas une solution. Frère ami, on n'est pas meilleur ennemi. Condamnés à vivre ensemble, nous sommes reconnus coupables à vie. Dit-on, la richesse ne fait pas que des heureux. Au lieu d'être synonyme de vie, de joie, sourire et abondance, ces riches tous sont les plutôt sources de mort, tristesse, vide, misère et désarroi. Méfions-nous, ils risquent de nous engloutir tous.
C'était l'art de la paix de Lexus Legal. Lexus Legal est de son vrai nom. Alex Ndende est un rappeur congolais et est considéré comme l'une des figures emblématiques du hip-hop congolais. À travers cette chanson, il estime que le temps de la paix est arrivé. On revient à la tête cette semaine. Le regroupement politique Action des Alliés et UNC, Alliance des acteurs attachés au peuple, Alliance Bloc 50 et la coalition des démocrates Code en sigle, respectivement de Vital Kamerhe, Tony Kankou-Chikou, Julien Paloukou et Jean-Lucien Boussa, ont annoncé la création d'une nouvelle plateforme politique dénommée Pacte pour un Congo retrouvé, PCR en sigle. Ce nouveau mouvement politique, membre de l'Union Sacrée pour la Nation, a été présenté mardi à Kinshasa devant les médias et les sympathisants des divers partis les constituants. Selon les leaders de ces regroupements, cette nouvelle force politique a pour ambition notamment de renforcer la cohésion au sein de la famille politique de Félix Tshisekedi en vue de matérialiser ses idées en action pour le bien-être de la population congolaise, mais aussi d'apporter les soutiens et les renforcements de la majorité parlementaire durant la législature qui démarre. Josué Blaise Mbangakak, vous êtes journaliste et spécialiste des questions d'histoire et de géostratégie. Vous avez opté pour ces sujets, on peut savoir pourquoi.
Disons que lorsque j'ai opté pour ce sujet, je pensais que si le président, si c'est Kelly, ne s'y prend pas bien, il aura 5 ans à avoir des dauphins partout, dans son propre camp et dans sa propre majorité. Parce que tel qu'on est parti, on passera plus du temps à se positionner là la maintenant comme le probable président dans 5 ans. Et ça sera dommage parce que non seulement quand tu regardes le nouveau regroupement qui a eu le 23 janvier 2024 à l'hôtel Rotana, le Kinshasa, dans la Gombe, on a quand même des figures assez respectables, que ce soit Vital Kamerhe de l'Union Nationale. On a des regroupements tels que l'Action des Alliés, on a les gens comme le Bloc 50, et des gens, quand on regarde des gens comme Jean-Lucien Boussa-Sikou, Tony Kankou et Lucien Platoukou, on s'est dit, c'est quand même une plateforme de gens qui, quand on regarde le nombre de députés qu'ils ont sur les 500, ils ont déjà 100 députés. Donc ils se positionnent déjà, soit pour le contrôle de la primature, ce qui est difficile, parce que, de source bien introduite, le président Tshisekedi a déjà promis la primature à l'espace Grand Équateur. On cite même déjà le nom de Pierre Liyo comme futur probable Premier ministre. Et sans compter que déjà, dans son propre camp, les deux cas, Kazadi, donc Peter Kazadi et Nicolas Kazadi, se positionnent depuis quelque temps déjà comme les véritables boussoles, météo, les hommes qui chuchotent à l'oreille du président, et se positionnent déjà comme les jokers du futur. Alors quand on regarde tout ça, on a déjà deux gros poids lourds qui sont dans la majorité sans être de l'UDPS. Il s'agit de Jean-Pierre Bemba, qui est originaire de l'Équateur, et quand on sait le poids que l'Équateur représente, et le poids que lui pense être derrière lui, et quand on regarde déjà Vital Kamerhe, qui, on peut tout dire, a réussi à connaître des mutations depuis le père jusqu'au fils, on a l'impression que jusqu'à présent, les trois derniers présidents, il a été au cœur du dispositif essentiel de la présidence. Alors, on peut tout dire, ce qui est là, ça, c'est déjà cette union et qui est une plateforme dont l'appellation déjà porte son nom, c'est un pacte pour un Congo retrouvé. Congo retrouvé, c'est-à-dire aujourd'hui, est-ce que le Congo a la recherche de son identité? Est-ce qu'on a la recherche d'un nouveau Congo? Et qui serait le leader de ce nouveau Congo? Je crois que l'appellation derrière la plateforme en lui-même déjà est une alliance politique pour le futur. Ne pas le voir comme ça serait assez naïf. Et je pense que le renard de surface qui est M. Vital Kamerhe, je crois qu'il est en train de se positionner là pour faire basculer un peu le poids et le rapport de force de son côté. Est-ce qu'il a envie encore de rester à l'économie là où il est là en ce moment? Je crois que c'est déjà une veste qui lui paraît comme une camisole déjà assez serrée. Donc ce qui l'intéresserait aujourd'hui, c'est peut-être soit la primature, soit à défaut la présidence de l'Assemblée avec les 100 députés que la plateforme d'un Congo retrouvé représente. Alors, est-ce que, quand on regarde déjà les entourages des uns et des autres, parce que l'entourage du président Tshisekedi a commencé déjà à canarder ce camp, en trouvant que c'est des gens déjà très pressés, et ce que Vital Kamerhe ne reconnaît pas, parce que lui, il dit par contre que cette plateforme est plutôt une sorte de structure pour resserrer les rangs et jouer le rôle de sentinelle et de vigile de la mouvance présidentielle. Mais quelques questions se posent quand même, ou on a le droit de se poser ces questions. Est-ce que c'est la rupture? On a envie de savoir, de voir les premiers signes, notamment les ruptures, les fissures qui se feront avec le gouvernement qui arrive. Bon, maintenant, avant la formation du nouveau gouvernement, on a envie de se dire qu'il y a quand même déjà des fissures à l'intérieur de la majorité. Je crois, pour terminer, que le président Tshisekedi a intérêt à mettre de l'ordre, d'abord auprès de son propre parti du DPS, et en même temps au sein de la majorité. Parce que là maintenant, les 5 ans qui vont arriver, s'il rate l'entrée d'un gouvernement serré, on aura plus du temps à se positionner comme dauphin et comme candidat à la prochaine présidentielle. C'est ça que le Sénégal a réussi avec Macky Sall. Ça lui a posé aussi des problèmes, les deux options, de dire que Amadou Ba, presque la dernière ligne à la ligne d'arrivée, que c'est le candidat, malgré ça, à l'intérieur de son camp, au Sénégal, il y a eu des velléités de lever le doigt pour être aussi candidat. Donc le président Tshisekedi a intérêt à ce qu'une tête ne dépasse pas une autre dans la majorité et à la sein de l'UDPS.
Merci Blaise Zainda, journaliste indépendant et manager des médias. Vital Kamerhe, Tony Kankouchikou, Julien Paloukou et Jean-Lucien Boussa, selon une certaine opinion, feraient la fronde au sein de l'Union sacrée. Et si ils font effectivement la fronde, qu'est-ce qu'ils seraient en train de viser?
Je ne sais pas, au regard de réactions que j'ai pu recueillir de part et d'autre, la toute dernière est celle de Julien Paloukou, qui lui a dit que bon, il faut faire la part des choses entre la majorité présidentielle, qui a pour mission de faire réélire le président, qui avait pour mission de faire réélire Félix-Antoine Tshisekedi, et la majorité parlementaire au sein de l'Assemblée nationale. On l'a dit par mon précédent intervenant, qu'ils sont forts d'une centaine de députés et ils pensent, c'est de leur droit d'estimer que bon voilà, l'Union sacrée a existé, mais il n'y avait pas d'indicateur probant pour dire que voilà, maintenant que nous avons la gestion du pays, il faut aider le président à adopter tel ou tel autre secteur avec célérité, en faisant ceci, en faisant cela. Et ils pensent que, bon, c'est sous cette optique-là que, bon, ils peuvent jouer un bon rôle au sein de l'Assemblée nationale et pour aider, disent-ils, le prochain gouvernement. Mais cela ne passe pas aussi, parce que, bon, on se demande finalement, est-ce que cette union sacrée n'est pas structurée ou pas? Parce que, bon, il a existé un présidium. On se rend compte que les grandes questions politiques n'ont jamais été débattues au niveau de ces présidiums-là, sinon on ne vivrait pas ça. Sinon on ne vivrait pas deux photos qui sont pratiquement opposées. L'une, on voit Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe, Mbosoko Diapwanga, le Premier ministre Samalukonde, tous chez la maman du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, Maman Marthe. Et d'autre part, nous voyons ceux qui n'étaient pas conviés à cette fête-là, tout en étant du président, quand Vital Kamerhe se référait à disposer d'une plateforme propre à eux. On peut peut-être le relever, Vital Kamerhe c'est le parrain de Jean-Lucien Boussa, on connaît certainement les affinités qui peuvent exister entre les deux personnes. On voit aussi en même temps Julien Paluku, en même temps Tony Kankouski laisse entendre que c'est une plateforme qui disposerait de l'assentiment de l'autorité hiérarchique du pays, à savoir le chef de l'État. Bon, cela n'exonère pas la plateforme des tirs qui proviennent du MLC, par exemple, qui trouve que c'est quand même assez démesuré ou inconvenant de vouloir forcer la main au chef de l'État pour telle ou telle autre chose, en créant déjà, avant même qu'il n'y ait la première session à l'Assemblée nationale, qui dit qu'on vive la création d'une plateforme comme celle-là. Et on a vu de l'autre côté le Jean-Michel Samalukonde aussi, qui a créé aussi sa plateforme et tout ça. Bon, le chef de l'État doit faire très attention, parce que là, nous entrons dans une phase, un peu comme en 2018, où on évoque, c'est ça le Congolais, déjà, on est début du mandat, c'est pas encore les 5 ans, mais on évoque déjà, on se pose des questions sur qui peut être le dauphin pour ces second et dernier mandat du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Des questions se posent, et il y a des personnes qui voudraient sortir la tête de l'eau et se positionner. Maintenant, il faudrait que le chef de l'État soit un frein politicien pour gérer les ambitions des autres, parce qu'à un moment donné, ça risquera de fragiliser cette union sacrée.
Merci, Maître Gentil Sokolati, président du conseil d'administration de la nouvelle société civile congolaise. Et selon certains experts, ce qui se passe actuellement était presque prévisible, dans le sens que les propres des méga-plateformes, c'est qu'elles finissent par connaître à leur sein ce type de crise lorsque les ambitions des sociétaires ne sont pas bien gérées. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce point de vue?
Bon, ça donne quand même matière à réflexion. Et bon, dans la population, on se pose plusieurs questions en faisant ce constat-là. Ben, je ne sais pas si on peut dire que c'est un constat amer ou c'est un constat qui peut être normal, mais on se dit aussi pourquoi la création de toutes ces plateformes. Pourquoi la création de toutes ces plateformes? Peut-être que les acteurs, les concernés dans ces plateformes savent à quel objectif ils sont en train de voir, sans que le chef de l'État, le président de la République, s'en aperçoive. Donc c'est comme mes prédécesseurs l'ont dit, ça donne quand même la matière à réflexion, parce qu'on se dit que, parce que à peine qu'il venait de prêter serment, bon, nous n'en sommes pas encore là, mais il y a certains qui ont un œil pour regarder de loin, pour se dire que non, non, en ce moment, il faut créer une plateforme pour aller dans cette direction, pour faire ça, pour faire ça. Ben, je suis dit, mes prédécesseurs disent que le chef de l'État doit faire très, très attention. Très, très attention, parce que quel est le sort de l'Union sacrée aujourd'hui, avec la création de toutes ces plateformes? Ça voudrait dire que l'Union sacrée risque d'être fragilisée par la création de toutes ces plateformes. Et qui, au départ, le même visage que nous voyons à gauche, à droite, dans ces plateformes, on les a vus et on les a connus dans l'Union sacrée. Et nous, les Congolais, en train de vivre ce spectacle, nous nous disons, mais qu'est-ce qui se passe? On devra attendre. Il ne faudrait pas que l'on vive ce qui a été vécu en 2018. Pourquoi allons-nous revenir ou vivre une expérience pareille si elle n'était pas bonne? Les acteurs des partis politiques doivent nous aider. J'ai comme l'impression que les politiciens n'aident pas le Congolais et notre pays, la RDC. au vu de tout ce que nous sommes en train de vivre, nous nous disons, eh ben, si on est en train de regarder leurs intérêts, ça veut dire que ça pose déjà problème. Est-ce que le chef de l'État sera-t-il aidé dans ce qu'il pense faire avec toutes ces créations de ces plateformes? Voilà là la grande question.
Merci, merci, chères auditrices et chers auditeurs. La qualité en RDC, c'est aussi la qualité musicale. Le lundi 15 janvier 2024, Elfried Mpongolandou, alias Mpongolov, a totalisé 34 ans dans l'au-delà. Et pour lui rendre hommage, on va écouter l'un de ses classiques intitulé Fétiche Mpongo, chanson dans laquelle elle rendait hommage à sa mère. On écoute donc Fétiche Mpongo et on revient juste après.
Même si la vie m'a persécuté, moi j'aime la vie. C'est si beau la vie.
Regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour, nous revenons dans cette émission Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre à quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la RDC. Dans la première partie de ces magazines, nous avons fait un commentaire sur les combats qui opposent les FARDC et les miliciens locaux rebelles du M23 depuis le début de la semaine à Mouesso, au Nord Kivu. Nous avons également analysé la mise en place au sein de l'Union Sacrée d'une nouvelle plateforme politique dénommée Pacte pour un Congo retrouvé PCR. Participe à cette émission, Blaise Zaïnda, journaliste indépendant, il est manager des médias, maître Gentil Soukoulati, présidente du conseil d'administration de la nouvelle société civile congolaise et en ligne depuis Yaoundé, capitale du Cameroun, Josué Blaise Mbangaka, qui est journaliste spécialiste des questions d'histoire et de géostratégie. Le président Félix Tshisekedi a été investi pour son second mandat le samedi 20 janvier. Lors de son discours, le chef de l'État a salué le rôle joué par ses différents adversaires lors de l'élection présidentielle de décembre 2023. Pour lui, l'opposition politique aura sa place dans sa gouvernance. Il assure son implication dans la désignation du porte-parole de l'opposition. À cet effet, il a déclaré, je cite, « En tant que garant de la cohésion nationale, j'y veillerai » au même titre que j'exhorterai les parlements à assurer l'effectivité du rôle de porte-parole de l'opposition que cette dernière voudra bien désigner conformément à la Constitution. Réagissant à la proposition du président de la République, Prince Epengue, un des cadres de la plateforme de l'opposition, la Mouka, a indiqué, je cite, « L'idée de discuter telle que Félix Tshisekedi les préconise, nous sommes d'accord, mais discuter pour dégager les responsabilités par rapport au chaos électoral qui a s'aimer la désolation et le désespoir au sein de notre peuple. » Maître Gentil Soukoulati, vous avez souhaité nous parler de ce sujet. On vous écoute.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Ce sujet, il est très important du moment où la RDC est en train de traverser une nouvelle ère avec de la réélection du président de la République, le chef de l'État, monsieur son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après sa prestation de serment, je pense qu'il est quand même très important de voir de quelle manière la chose publique sera gérée. Parce que nous n'avons pas que la majorité dans ce pays. Il y a aussi l'opposition. Et j'ose croire que l'attitude du chef de l'État est une attitude meilleure, d'autant plus que il a respecté l'obligation constitutionnelle. Et là, c'est une obligation constitutionnelle. Et en l'entendre faire cette promesse, faire cette déclaration, moi je pense qu'il n'a pas failli et il appelle tout le monde à la cohésion nationale pour que la chose publique soit gérée, non seulement par lui et sa classe politique, mais aussi avec l'opposition. Je voudrais ici, depuis un certain temps, nous vivons un certain comportement dans le chef des opposants. Je voudrais en appeler à la conscience des membres des partis politiques et faire à l'opposition. C'est très important, c'est très capital. Ça n'a jamais été bien de pouvoir jouer un rôle tout en étant absent. C'est impossible. J'en appelle à la conscience de tout un chacun de l'opposition de venir à la gestion de la chose publique. Leur participation dans le gouvernement va faire un poids parce que nous avons aussi besoin de voir les opposants jouer leur rôle correctement. Ça, c'est de un. Lorsqu'il faut regarder dans le choix du porte-parole de l'opposition, il va falloir que tous les acteurs des partis politiques dans l'opposition, chacun en ce qui les concerne, qu'ils mettent de côté son orgueil personnel individuel. Mais qu'ils se disent qu'en ce moment, nous regardons l'intérêt de la République démocratique du Congo. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai comme l'impression que chez nous, ce sont les avantages qui priment. Les avantages qui vont bénéficier par le porte-parole de l'opposition. Et n'est pas ça. Qu'ils se mettent ensemble, qu'ils se mettent autour d'une table, qu'ils discutent pour procéder au choix de leur porte-parole. C'est capital. La politique de la chaise vide n'a jamais payé.
Oui, maître Gentil Soukoulati, vous avez suivi le prince Epengue. Qui est un cadre de l'opposition, qui dit ne pas être opposé, n'est-ce pas, à l'idée du chef de l'État, mais à condition que les discussions s'effacent pour dégager, n'est-ce pas, les responsabilités par rapport à ce qu'ils appellent le chaos électoral. Est-ce qu'on peut déjà conclure que l'opposition, en disant cela, ne rejette pas totalement cet appel du chef de l'État?
Bien, merci beaucoup. si l'opposition ne rejette pas totalement, on peut considérer ça dans ce sens que l'opposition n'a pas rejeté totalement l'appel du chef de l'État. Mais que l'opposition arrête de nous amener dans des préalables. Parce qu'au point que ces préalables-là, si jamais on ne répondait pas à ces préalables, quelle sera alors la réaction de l'opposition? Va-t-il y avoir blocage? Ou alors, en ce moment-là, ils vont procéder au refus de pouvoir participer à la gestion de la chose. Je me dis que l'opposition, c'est le moment. Si toute l'opposition pense être d'accord avec l'appel du chef de l'État, c'est le moment pour eux de pouvoir voir comment dégager dans leur discussion déjà, voir comment les choses vont être entamées pour qu'on arrive à voir leur présence, leur existence au sein. Moi, je parle toujours de la gestion de la chose publique. Parce qu'ils sont appelés à être dans le gouvernement. Moi, je ne vois pas en quoi ils peuvent se résilier pour dire qu'il y a telle condition.
Merci, maître Gentil Sokolati. Blaise Zainda, à votre avis, quel est les facteurs qui peuvent avoir amené les chefs d'État à lancer un tel message à l'endroit de l'opposition? A-t-il besoin de l'opposition à ses côtés, lui qui a été élu à une majorité écrasante de plus de 73%?
Bon, on revient au fait, hein. Je crois qu'il est important de relever que nous sommes la République démocratique du Congo et non pas la République des conciliabules du Congo. Ça, c'est déjà une évidence. Nous avons des textes juridiques et des textes de loi qui guident les fonctionnements des institutions, les fonctionnements de la vie publique, ainsi de suite. Il faut d'abord que nous rentrions aux éléments de base. Oubliez que nous avons vécu les élections les plus chaotiques qui puissent exister depuis 2006, ce serait vraiment rendre un mauvais service à nos enfants. Il faut que nous arrêtions à un moment donné de penser que le pays doit vivre comme dans une famille où on a vu sa fille revenir avec une grossesse et pour le moment on s'est dit bon, attendons que l'enfant naisse et quand l'enfant va naître, maintenant c'est à ce moment-là qu'on commencerait à poser des questions. Non, il ne faudrait pas que nous rendions ces mauvais services à nos enfants. Il faut que les choses soient clairement définies. Il faut que les gens comprennent que l'appel du chef de l'État, je ne sais pas, moi j'étais en train de suivre les discours, il a appelé l'opposition à jouer un rôle, c'est-à-dire il lui tend la main pour jouer son rôle. Le rôle de l'opposition est connu, celui de critiquer de manière républicaine l'exercice du pouvoir par la majorité. C'est ainsi qu'est défini en principe, à mon avis, le rôle de l'opposition. Je ne vois pas encore un tableau du genre où les gens doivent se mettre autour d'une table et commencer à dire « Non, moi je prendrai tel ministère, moi je vois qu'on regarde mon poids politique, je vais prendre tel autre ministère pour que nous soyons... » Non, le pays doit être dirigé selon les normes. Nous avons vécu des élections chaotiques, catastrophiques, il faut que nous en parlions. Même la SENCO, même les églises, même le CC l'a dit, toutes ces églises, toutes ces structures religieuses l'ont reconnu. Il faut qu'il y ait réparation, il faut qu'il y ait une conscience comme quoi les élections ne sont pas l'apanage d'un individu, ne sont pas l'apanage d'une sorte de caste des personnalités. C'est l'argent du peuple congolais, du contribuable congolais. C'est-à-dire c'est nous qui organisons, qui donnons les moyens pour organiser ces élections. Il faudrait aussi qu'en retour, nous disposions aussi des éléments qui prouvent à suffisance que les moyens ont été mis à contribution pour des bonnes choses et non pour des choses chaotiques comme celles que nous avons vécues. Ok, le chef de l'État est élu, on a vu... La CENI, organe d'habilité, a publié le résultat. Elle l'a fait. La Cour constitutionnelle a validé. Et puis, le président a prêté serment. Super. Maintenant, continuons à faire vivre l'État et à faire en sorte que nous ne puissions plus revivre ce que nous avons vécu parce que c'est une honte planétaire, les événements qui ont caractérisé la fin de 2023 en ce qui concerne la République démocratique du Congo. C'est aussi, n'oublions même pas, 73%, oui, mais quand on voit le taux de participation de tous les Congolais, ceux qui sont effectivement, ceux qui ont participé à ces élections, c'est 43%. Pratiquement, je crois, c'est un dessin de la moitié. Ce qui prie au-dessus, et donc le président a certainement, en homme épris certainement des valeurs républicaines, a tendu l'oreille pour se rendre compte qu'il y a des Congolais qui se sont désintéressés de cette situation, se sont désintéressés de ces opérations, et ces Congolais-là, à défaut d'être dans l'opposition dans des partis politiques, constituent aussi une partie prenante qui devrait aussi disposer des éléments d'assurance pour bien évaluer ou bien projeter l'avenir de la République démocratique du Congo. Voilà, c'est ça mon point de vue.
Merci Josué Blaise Marankak. Quelle devrait être la position de l'opposition congolaise? On sait que c'est une opposition plurielle, une opposition qui ne parle pas les mêmes langages. Mais quelle pourrait être sa position face à cet appel du chef de l'État? Devrait-elle y aller ou devrait-elle commencer d'abord par poser des préalables, hein, comme nous avons suivi un de ses cadres qui a estimé que ils ne sont pas contre l'invitation du chef de l'État, mais ils seraient favorables si, seulement si, les discussions peuvent se porter, n'est-ce pas, sur ce qu'ils appellent chaos électoral.
D'abord, je fais mienne une bonne partie de la démarche de mon homonyme et confrère Blaise. Donc, je partage les trois quarts de ce qu'il a pu dire, surtout moi. Parce qu'à mon avis, déjà, pas seulement l'opposition, il y a, dans l'intérêt des partis, il n'y a déjà pas l'harmonisation des points de vue. Quand tu prends le parti Ensemble pour la République, déjà, tu entends Olivier Kamitatou prôner qu'il faut aller à l'Assemblée, s'asseoir, la politique de la chaise vide ne paye jamais. Et à l'intérieur du même parti, il y a des gens qui se radicalisent et s'éloignent de cette position. Alors, donc déjà, les partis eux-mêmes déjà ne sont pas en harmonie sur ces cas-là. Et je pense que, comme le disait tantôt mon confrère Blaise, homonyme, il faudrait qu'on laisse quand même en Afrique l'opposition jouer son rôle de critique, son rôle d'arbitre, son rôle de tout ce qu'on veut, mais pas de... À chaque fois, l'opposition n'est pas l'allié du pouvoir. L'opposition a un rôle précis. Alors, il faut laisser l'opposition là où elle est. La seule chose qui est souhaitable, que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu à dire, c'est reconnaître et donner le statut de l'opposition de façon officielle, avec un porte-parole, avec tout ce que ça comporte comme statut institutionnel. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui touche la République, que l'opposition officielle vienne avec la majorité, parce que le Congo est menacé ou en danger, que l'opposition dise « voici la position, monsieur le président, vous avez même retardé pour prendre cette position pour sauver la patrie qui est en danger ». Et à chaque fois que l'opposition estime que le pouvoir est en train de faire des sorties de piste comme en Formule 1, de recentrer. À côté de tout ça, il faut une société civile véritable. Parce que nos sociétés civiles sont coupées en deux, une partie pour l'opposition, une autre partie proche du pouvoir. Quand tu entends parler de notre société civile, tu as l'impression que c'est des éléments pris ici et là et qu'on a juste habillé avec d'autres tenues et d'autres tenues du parti au pouvoir ou de l'opposition. Quel jour cette société civile, son rôle de régulateur de la société, sans parti pris, ni chauvinisme, ni proche de l'un, ni proche de l'autre. Voilà comment moi je conçois cette société civile-là. Et que ce soit les avocats, que ce soit les associations, que ce soit au Congo ou dans d'autres pays africains, le clergé a toujours joué un rôle puissant depuis l'époque de Monseigneur Malula, Monseigneur Monsengo. Les évêques congolais dans la CENCO, CC, a toujours joué un rôle vraiment très important, même lors des conférences nationales. Donc je crois que, à ces niveaux-là, il faut que chacune des structures joue son rôle. Mais une chose est sûre, tel que c'est parti, c'est un mandat qui sera fait sur le signe de positionnement dans les 5 ans. À l'intérieur même du parti présidentiel, l'UDPS, la plupart des cadres ne seront plus là pour les dossiers, mais comment se positionner comme dauphin et séduire le président, plus sa mère et l'entourage de la première dame, et pour parler à l'oreille, et comment être sûr qu'on est le dauphin. Et ceux qui s'écarteront de la ligne, je suis certain, dit et tous les autres, qu'à mi-parcours du mandat, il y aura des arrestations en cascade pour tous ceux qui s'éloigneront de la ligne du parti et de la majorité pour se positionner très tôt, comme dauphin, évidemment, quand ils ont géré même un centime, le pouvoir a mille manières de trouver que vous avez touché la fortune publique. Donc, je parie qu'avant les 2-3 ans, il y aura une cascade d'arrestations qu'on va appeler opération, même propre, c'est trop faux, nettoyer le pays. Bon, ça sera tant pis pour ceux qui seront plus pressés à vouloir sortis des rangs et à vouloir être des dauphins potentiels et qui ont l'impression qu'ils ont une mission messianique à sauver le Congo.
Merci. On prend une petite pause en écoutant Ye Ye Africa Music d'Elvis Kemayo et on revient juste après. c'était Yeye Africa Music d'Elvis Kemayo. Elvis Kemayo, c'est célèbre artiste et musicien camerounais qui n'est plus à présenter. Je rappelle que nous avons dans cette émission Blaise Zaïnda, il est journaliste indépendant, il est manager des médias. Maître Gentil Soukoulati, il est président du conseil d'administration de la nouvelle société civile congolaise. Et en ligne depuis Yaoundé, capitale du Cameroun, Josué Blaise Mangaka, qui est journaliste et spécialiste des questions d'histoire et de géostratégie. Les 350 participants aux états généraux des forêts qui se sont clôturés mardi 23 janvier à Kinshasa ont recommandé, entre autres, la mise en place d'un agenda des vents, aider les pays à se doter d'une politique forestière appropriée. Ces assises de 5 jours ont connu la participation de près de 350 séminaristes, experts et autres personnalités du secteur de l'environnement. Venus de tous les coins du pays, les participants à ces travaux ont recommandé la gestion durable des forêts congolaises avec la protection de la biodiversité. Ils ont appelé à la définition des mécanismes appropriés d'amélioration de la gouvernance forestière et à la proposition des axes de renforcement des capacités institutionnelles et opérationnelles de l'administration en charge des forêts. Blaise Zaïnda, qu'est-ce que l'Organisation des États généraux des forêts vous inspire, vous qui avez choisi, n'est-ce pas, de nous parler de cette question?
Merci beaucoup, mon estimé confrère Guy. Au fait, je suis très amoureux de la vie. J'aime beaucoup la vie. J'aime beaucoup la vie, j'aime la biodiversité, j'aime les arbres, j'aime la nature et tout ça. Et je me disais qu'au regard de la manière dont évolue la planète, il y a un danger. Vous avez vu avec les dernières crues ici en République démocratique du Congo, en Belgique, plutôt en France, il y a la fonte des blocs glaciers dans la partie nord de la planète et tout ça. Ce sont des problèmes qui seront encore beaucoup plus intenses dans les jours à venir si on n'arrive pas à mieux protéger cette planète. Et la République démocratique du Congo apparaît, et de manière assez éloquente, comme un des pays potentiellement, je ne dis pas solution, mais je dis potentiellement solution pour rendre à cette planète une certaine aisance au niveau écologique. Alors, au regard du sujet, je me suis trop intéressé à ce sujet-là, qui évoquait aussi ces états généraux, qui évoquaient l'exploitation forestière industrielle du bois d'œuvre, l'exploitation forestière artisanale du bois d'œuvre, la transformation du bois, le moratoire sur l'octroi de nouvelles concessions, la révisitation des titres fonciers, la promotion du bois et aussi les énergies bois, parce qu'il faut retenir quand même que c'est 80% des ménages en République démocratique du Congo qui utilisent les énergies bois. Alors, le problème, c'est que la transformation du bois en République démocratique du Congo est butée à un problème qui est très, très considérable, c'est-à-dire c'est l'énergie électrique. Donc, il y a une insuffisance à ce niveau-là, et c'est très faible. On est à pratiquement sur l'ensemble du territoire national à 10%, si on peut le dire ainsi. Et la RDC, c'est le plus petit taux de sillage du bois dans le bassin du Congo, le plus petit nombre en tout cas, des industries de transformation. Et ce sont des éléments qui devraient nous pousser à réfléchir, nous en République démocratique du Congo. Plus de 80% de bois sont exportés sous forme de grumes. Alors nous sommes, moi j'ai eu le privilège de visiter la zone économique spéciale d'Nkok au niveau du Gabon, et là vous sentez qu'il y a une énergie toute nouvelle qui permet à ce que l'on puisse donner de la considération à cette exploitation forestière ainsi qu'à toute la chaîne de valeur. Mais le fameux moratoire dont la République démocratique du Congo fait souvent mention, la RDC est le seul pays au monde qui a instauré un moratoire sur l'octroi des nouvelles allocations forestières. C'est pourquoi c'était pour éviter cette gabegie qui commençait à voir le jour. Je sais que ces jours-ci, le gouvernement veut absolument ce que l'on révisite un certain nombre de dispositions et qu'on puisse lever le moratoire, ce que ne voudraient pas non plus des acteurs de la société civile, parce qu'ils estiment qu'il y a des choses très importantes encore qui sont désordonnées et qu'il faille que nous puissions avoir des indicateurs bien précis avant de nous lancer sur ces terrains-là. Donc, la République démocratique du Congo a engagé une révisitation en ce qui concerne 82 contrats forestiers examinés, dont 56 contrats d'exploitation et 26 contrats de conservation. Donc, je pense que l'exploitation forestière en République démocratique du Congo souffre de ce qu'on appelle des insuffisances du cadre réglementaire. Nous avons le code forestier, il est vieux de 18 ans, c'est vieux, il ne répond plus à un certain nombre d'évolutions. Il faut une bonne application des textes réglementaires et dénoncer l'inefficacité du contrôle forestier, l'absence du cadre de concertation opérationnelle entre les différentes parties prenantes. C'est d'ailleurs ce qu'a dénoncé le groupe de travail climat RED Rénové, GTCRR, qui s'avère être un consortium qui regroupe en lui seul près de 460 ONG et d'autres plateformes, la société civile, environnementale, et qui a estimé que ces états généraux, certes, oui, c'est bien qu'ils se tiennent, mais il y avait de préalables, entre autres, il fallait que l'on associe toutes les parties prenantes au niveau des provinces afin que chacun apporte les réalités que chacun vit dans son village, dans son entité, et que ensemble l'on puisse faire des états généraux qui ne ressemblent pas à ceux qui ont existé avant nous. Nous, de la presse, on a fait les états généraux, on en a eu pour le sport, mais par la suite, rien n'est opérationnalisé vers le côté positif. Nous demeurons toujours dans ces cercles vicieux. Et aussi, il y avait une situation qui a été mise en exergue, que moi je respecte. Ces états généraux apparaissent comme étant des assises qui ont pour objectif de voir comment est-ce que la forêt va contribuer au PIB de la République démocratique du Congo. Donc on cherche à faire en sorte que la forêt puisse être un élément qui va gonfler l'assiette fiscale, qui va gonfler le budget national, ainsi de... alors que pour les organisations non gouvernementales, la forêt doit demeurer protectrice. S'il faut couper les arbres, il faut faire en sorte qu'il y ait des mécanismes de remplacement et qu'il faut faire en sorte que la République démocratique du Congo, avec les autres pays, puisse participer à la diminution sensible de ce que nous appelons le réchauffement climatique, que nous allions à moins de 2 degrés Celsius, comme malheureusement ce n'est pas le cas en ce moment. Nous sommes en train d'évoquer les forêts parce que c'est elles qui vont déterminer la nature ou l'avenir de nos enfants dans les jours qui viennent. Voilà, en termes clairs, mon estimé frère et confrère Guy.
Merci Blaise Zainga, Maître Gentil Soukoulati. Comment peut-on gérer cette sorte de contradiction? Vous avez suivi Blaise Zainga qui a évoqué cette volonté du gouvernement congolais de lever les moratoires sur l'exploitation des forêts, pendant que lui-même, le gouvernement s'engage, n'est-ce pas, dans la lutte contre la déforestation. Comment ce même gouvernement peut arriver à gérer cette sorte de contradiction?
Ben, je pense que ça va être difficile pour le gouvernement de pouvoir gérer ça dans ce condition-là. Si on dit la chose de son contraire, est-ce qu'on sera en mesure de pouvoir faire quelque chose de bon? Mais il faudrait regarder en face, voir le problème tel qu'il est posé pour pouvoir trouver la solution. Il n'est donc pas question de prendre des décisions comme ça, lorsqu'on constate que ça ne va pas, mais on s'arrête, mais doit-on continuer dans ces conditions? On doit se poser la question, qu'est-ce qui paille faire exactement? Dans tout ce qui est fait, dans les décisions que le gouvernement est en train de prendre, toute la contradiction que nous sommes en train de vivre, pensez-vous que les choses peuvent aller dans ces conditions-là? Nous avons quand même un souci et nous avons besoin que tout ce qui peut être fait profite également à la population. Non seulement à la population, mais aussi à tout le continent. Parce que comme mon prédécesseur vient de dire, que cela n'est pas profitable seulement à la République démocratique du Congo, mais aussi à tous les continents. Il n'est donc pas question de pouvoir trouver une solution aujourd'hui et demain on revient sur ça, alors que ça ne fait pas évoluer. Moi je pense que le gouvernement doit recadrer les tirs en faisant bien des choses, ça nous fera évoluer et bien, et aussi ça nous profitera comme Congolais.
Merci, Josué Blaise Malanka, que c'est une question, n'est-ce pas, qui se pose à tous les pays qui font partie du bassin du Congo. D'un côté, il y a ces impératifs écologiques, et de l'autre, les impératifs de la croissance économique. Comment ces pays pourraient-ils, n'est-ce pas, concilier ces deux impératifs?
Déjà, je me réjouis que la quasi-totalité des pays africains, spécialement aussi ceux du bassin du Congo, chaque pays a un ministère de l'environnement, des forêts, tout ce qu'on veut. Mais lorsqu'on regarde de près, ça peut heurter, je peux choquer, mais laissez-moi le temps de vous dire que quand on suit de près les questions sur les questions écolo, on a l'impression que le Congo-Brazzaville a un peu d'avance parce qu'il y a une dame, Madame Arlette Soudan, qui est ministre de l'environnement, des questions des forêts et du tourisme, qui a pris ses dossiers par les cornes, et qui maîtrise son sujet et qui a aussi l'oreille du président. Parce que elle est non seulement présente sur tous les espaces où les questions, sur les questions de forêt et puis des écosystèmes, sur les questions d'environnement sont posées, et elle a la capacité non seulement à monter en première ligne et à être au sommet pour essayer de poser clairement la question non seulement du Congo-Brazzaville, mais de l'ensemble des questions sur le continent. À côté de ça, vous avez depuis l'arrivée de la nouvelle équipe au Gabon, le tout-puissant et secrétaire général, M. Guy Rose Asanga Tanga, qui est aussi la boussole là-bas et la météo de pratiquement cette question sur les questions d'environnement. On peut tout dire. Je crois que le reste des pays pour lesquels je ne veux pas citer, vous trouvez même les ministres des questions d'environnement qui eux-mêmes sont complices des licences anarchiques qu'on donne aux coupes de bois, qu'on donne aux nationaux, mais les nationaux eux-mêmes s'en vont les prêter aux Libanais et on se retrouve à une coupe sauvage de forêt telle que on ne sait pas. Et aujourd'hui, il y a aussi quelque chose à reprocher aux médias et aux acteurs de la société civile. Les médias, citez-moi un seul dans nos pays où vous trouverez des pages sciences et environnement, où vous trouverez des émissions questions sur l'environnement. Au cas où c'est même, ça existe, c'est souvent des sortes de parents pauvres où on considère que c'est du remplissage. Une fois que les médias ne sont pas à jour pour jouer leur rôle de facilitateur et d'amener l'opinion à faire le sujet, et c'est pour ça que les opinions africaines ne considèrent pas les questions d'environnement comme des questions prioritaires. On est là, on est la couche d'ozone qui chaque jour a des questions de percée et baisse et fait des ouvertures au point que les changements climatiques font des ravages, mais ce n'est pas un problème de priorité pour nos pays. Donc les médias doivent jouer leur rôle et que les ministres en question ne soient pas choisis sur la seule base, mais qu'ils soient des gens qui sont passionnés, qui aiment ce métier, parce qu'il y en a dans des sociétés civiles aussi, qui sont des passionnés des questions de l'environnement.
Oui, Josué Blaise Manaka, vous avez cité les Congo-Brazzaville, vous avez cité les Gabon, mais vous avez oublié de citer aussi la RDC avec l'actuel ministre de l'Environnement. C'est une dame forte, Madame Eve Bazaïba, qui on sent qu'elle est au four et au moulin depuis qu'elle est à la tête de ses ministères.
Merci Guy, mais je ne faisais pas un hit parade, donc rassure-toi, je n'ai pas dit que numéro 1, numéro 2, donc c'est bien ton additif qui est complémentaire. Je crois que lors de mes prochains séjours à Kinshasa, j'aurai l'occasion d'échanger avec elle et de voir ce qu'elle sait et aime et sait faire. Mais je crois que, sans parti pris, je crois que ce que Madame Arlette Soudan fait au Congo-Brazzaville et pour l'Afrique, essayez de suivre ça avec beaucoup d'attention. Je vous dis chapeau à cette dame et ce que M. Guy Rose Atanga fait au Gabon, qui n'est pas ministre de l'Environnement, mais qui a la bouche et l'oreille du président comme secrétaire général de la présidence. Ça, c'est chapeau également.
Merci, merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer. Blaise Zainda, Maître Gentil Sukulati et Josué Blaise Mangakak. Merci aussi à Willem Lungamba et à Paul Bayanyama qui étaient à la technique avec la participation de Christian Lomombe, DJ Daddy et d'Hervé Voka sous la supervision de Martin Sebujangwe. À la présentation, Guy Maté. Merci et bon week-end sur Radio Capi. Cette émission sera rediffusée ce soir à 22h, heure de Kinshasa. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site radiocapi.net. On se sépare avec Bellotti de Kisangani Espérant, Djengaka, chanson sortie en 1981 dans l'orchestre Viva la Musica et on se retrouve le samedi prochain.
La sirena moloka, yeah, 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 melodia ka, oh, 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 ilanga mama, la sirena moloka, la la he, na ye soba oh, yo ke la masolo mama, ya mo ya bamba ibango, na mileli nekola, aya mo besa saburu. La sirena moloka. Yeah, yeah, yeah.
toutou.
Je ne sais pas ma esco tomber malade. Je marche d'ailleurs au orange et en salle. Quand tout cela t'a fait la mourir, on te va pas si bon, papa. Nicolo d'ailleurs, mélodie.
Whoa, 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 wh